Chapitre 14. C'était après les vêpres, à Montpezat. Toutes les toilettes se montraient avec importance sur la place de la mairie, sur la promenade qui va de la gendarmerie au bureau de poste et au chemin des fossés, lequel descend du chemin de l'amour à la route de Caussade. Un peu hors du village, après une luzerne triangulaire, le chemin de l'amour rejoint la route de la Madeleine au quartier de la gendarmerie. Il est désert d'habitude. Du pied de ses platanes jusqu'au milieu de ses ornières séculaires. À une de ses extrémités, dans un retrait clos de haies, hommes et femmes jouent le dimanche aux boules et aux quilles. Ensuite, la nuit, mais rien que le dimanche, les pharaons y vont seuls échanger leurs caresses, qui, pour toute la semaine, leur donnent de la joie. C'est là, au beau jour, que Française vint rencontrer Calice. Celui-ci, les mains derrière le dos, le front sous un chapeau de feutre presque neuf, attendait le crépuscule en regardant le jeu sans parler. Française, mystérieusement, le tapa sur l'épaule et lui dit « Viens avec moi, Calice !»« T'es, c'est toi? Qu'est-ce que tu veux ?»«
Je veux une chose grave. »«
Grave? Grave ?»«
Oh, pas pour moi, tu le penses. Cependant, on n'est pas bien ici pour causer. »
Allons dans la pleine campagne.
Non, il peut y avoir des pharaons cachés dans les broussailles. Suis-moi au cabaret de l'Europe.
Ah, je n'y vais jamais, moi.
J'ai des ordres. Suis-moi.
Française, autoritaire, avait entraîné déjà sur le chemin de l'amour le rapace de l'Espigne qui ne lui parlait que dans l'oreille. Arrivés à la route de la Madeleine, ils tournèrent à gauche. À cette heure, peu ou point de monde, au cabaret de l'Europe. Seul le juge de paix, singe à lunettes, long, maigre, et son greffier, un brun à barbe d'apôtre, prenaient l'absinthe sous la treille de vigne vierge qui, se développant sur toute la façade, ménage deux entrées vis-à-vis les deux portes. À gauche, la salle de consommation. À droite, la salle de billard. Les deux hommes pénétrèrent, lourdaux, se dandinant, dans la salle de consommation, se cachèrent tout au fond, entre la cheminée dont le foyer était bouché par des briques et une cloison enduite d'un paysage de montagnes vertes et rouges. Ce fut Française qui, brièvement, non sans vanité, d'un coup de canne sur la table, commanda
« Ouais, qu'on nous serve de la bière et dégourdissons-nous !»
La maîtresse du logis, haute et charnue, arriva lentement.
« C'est vous autres ? » salua-t-elle. « Tu fais la noce, Calice ?»«
Pardi, puisque le sourd le veut. »«
Vous êtes donc devenue une paire d'amis ?»«
Il y a longtemps qu'on se fréquente. Oh, que si je voulais, le château ne ferait pas un pli pour me prendre. »«
Et aujourd'hui, peut-être, tu vas conclure pour une de tes enfants ?»«
Hé hé, finette et gentille !»
Oh, la masque que tu es, en voilà des questions, et tu voudrais en savoir plus que moi-même. »
Calice, irrité, cogna la table de ses poings, rabroua de tout son corps la commère qu'il n'avait supportée que pour le parfum de sa chair, la clarté de son visage sensuel. Celle-ci, de peur d'être grondée par son homme, lequel respectait la clientèle, s'éloigna enfin, non sans soupirer de déception. Française tirait Calice par la manche. Il s'inclina et, prudent, bourdonna ses propositions de commissionnaire. Ses lèvres gercées remuaient péniblement. Ses yeux, cernés de rouge, sortaient, avides, de la broussaille des sourcils. Au milieu de son front, une ride, plus creuse que les autres, se dessinait. Calice, tout en émoi, éprouvait du bonheur, de l'angoisse, jusqu'au fond de l'âme. Il examinait les choses, comme un poltron, dans la salle, autour de lui. Ce n'était pas qu'une pudeur le gênât beaucoup. Mais, ainsi que tous les paysans, même les plus pauvres, il avait son sentiment d'orgueil, de la vanité. Il ne rougirait pas une seconde si, au bout de son affaire, il attrapait de l'argent. Mais il fallait, pour arrêter les médisances, qu'il montrât une forte somme de bénéfices. Il fallait surtout, si l'affaire n'aboutissait point, que personne au village ne connût sa défaite. Être dupé ou vaincu, là seulement était la honte. Française, avec beaucoup de complaisance, appuyait sur ses explications.
« Voilà, oui, Monsieur Maurice, je ne sais pourquoi, a un brin pour la finette. »«
C'est qu'elle vaut cher, la petite, je l'ai bien élevée. »«
Oui, dans les champs. Allons, sois raisonnable. Aguiche ton affaire, c'est le principal. Combien veux-tu ?
Ah ! Qui le sait ? Un pareil marché ne se conclut pas tous les jours.
Voyons, toi, combien demanderais-tu ?
Oh, moi, à ta place, je ne demanderais rien.
Hein ? Tu es fou ?
Non, je dirais à M. Maurice, « Tais, vous désirez mon enfant, prenez-la, vous la rendrez sage, belle et fortunée. J'ai confiance en vous. » Et M. Maurice, ravi de ta générosité, dépasserait, j'en suis sûr, tes exigences.
Oh, que nenni ! Je ne m'embarque pas sans promesse ferme.
Tu ne veux pas les écrire, par hasard ?
Non, tu es aussi honnête qu'un châtelain, toi. Je t'estime, tu sais.
Oui, flatte-moi, mais lâche ton chiffre.
Calice, n'osant exprimer par la parole un chiffre qui lui semblait fabuleux, leva ses mains, ouvrit très large ses 10 doigts et, à 2 reprises, les secoua.
« Je ne comprends pas, » dit froidement Frances.
« Eh bien, voilà, je réclame 20 écus de 5 francs, c'est-à-dire 100 francs par mois, et qu'on me versera dans ma maison, à moi. »«
Oh oh, dans un an, tu serais Crésus. »
Et je ne veux plus, si je consens au bonheur de M. Maurice, rester job sur mon fumier.
Tu exiges trop, tu n'auras rien. 10 écus, 50 francs, ça suffit.
Tu crois ? Mais alors 50 francs accompagnés de solides promesses.
Parfaitement, un riche ne ment pas.
Tous deux haussèrent les épaules. Ils étaient également de la race des humbles. Une tristesse les gagnait de ne point s'accorder encore. Calice baissa la tête, l'enferma dans une de ses mains calleuses et réfléchit. Le silence parut très long. Ils entendaient, au feu, dans la cuisine si proche, le pot de bouillon ronronner. Calice se réveilla. Il but un dernier coup de bière pour se réconforter et, pointant ses yeux résolus sur les yeux patients de Française, il dit « Le pauvre de l'Espigne doit toujours se résigner. Je cède, que veux-tu ?
Alors 50 francs pour commencer te conviennent ?
Ma foi, oui.
Et Finette, consentira-t-elle ?
Pardi, je te crois, il ne manquerait plus que les filles maintenant se révoltent.
Je peux annoncer sa venue pour bientôt à M. Maurice ?
Quand il voudra.
C'est bon.
Tous les deux s'épongèrent longuement la face d'un pan de leur blouse. Ils se serrèrent la main bien fort, avec autant d'émotion qu'à la foire, pour la vente ou l'achat d'une bête.
Balourds, ils sortirent.
Ôtant leur chapeau devant M. le juge, ils se séparèrent sans ajouter une parole.